Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans Oblique, donc la deuxième nouvelle émission, abordant le cinéma un peu dans tous ses états, sans époque ni frontières, d'aujourd'hui, d'hier, à Montpellier et ses environs, et puis aussi, on va aller vers d'autres contrées. Bonjour.
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 Alors, aujourd'hui, quel est donc le sommaire ? On va commencer par Victor.
Eh bien, moi, c'est la suite des entretiens réalisés au Château H pendant le festival Giallo. Donc, cette fois-ci, c'est Yann Gonzalez, le réalisateur, entre autres, de Un couteau dans le cœur.
Et toi, Yann ?
Audio Blix sur le premier film, premier long-métrage du réalisateur Vincent Maël Cardona, qui s'appelle Les Magnétiques.
Et nous allons donc commencer l'émission avec, je laisse donc la parole à Justine, avec la revue de presse de Montpellier et de ses environs. No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price.
Avis à tous les indécis, j'ai choisi pour vous cette semaine pas moins de 6 séances pour vous changer de vos soirées Netflix en pyjama. On commence avec la projection de Jusqu'à la mer de Marco Gastine, qui aura lieu le dimanche 30 janvier au cinéma Diagonale. Le film sera suivi d'un débat avec les associations Collectif Montpelliérain de solidarité avec le peuple grec et Sodade. Ce film nous parle de la lutte des patients gravement accidentés pour retrouver une vie fonctionnelle. Un témoignage fort sur la rééducation et les problèmes psychologiques liés à ce long chemin. On continue avec la projection lundi 31 janvier de Mysterious Skin de Greg Araki. Ça se passera au cinéma Utopia. À noter, c'est le premier film du cycle Ciné Campus 2022 qui projettera un film par mois jusqu'à avril. La séance de Mysterious Skin sera suivie d'une intervention de Monica Michelin, enseignante chercheuse et passionnée du réalisateur. Alors si vous avez été envoûté, dérangé, bouleversé ou même tout à la fois, n'hésitez pas à rester pour le débat qui suivra la séance. Mercredi 2 février à 18h30, à la Faculté des sciences de Montpellier, il y aura la projection gratuite du film « Les saisons » réalisé par Jacques Perrin et Jacques Clazeau en salle 36, bâtiment 9. Le film plonge au cœur du monde sauvage d'Europe en retraçant son histoire depuis la dernière période glaciaire. Cette projection se fera en présence de Gilbert Cochet, naturaliste attaché au Muséum d'Histoire Naturelle et président de l'association Forêt Sauvage. Toujours mercredi 2 février, mais cette fois-ci à 20h, le cinéma Utopia projettera « À la vie » de Aude Pépin. Cette séance unique sera présentée par l'association L'Aube des Naissances en présence de la réalisatrice, Aude Pépin, et de Chantal Birman, protagoniste du film, une sage-femme libérale et féministe qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes et qui, à presque 70 ans, continue de se rendre auprès de celles qui viennent d'accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Le jeudi 3 février, c'est au ciné-club Jean Vigo qui, à 20h, nous proposera le film « La cousine angélique » de Carlos Saura, un film sur la mémoire et le voyage du personnage entre les espaces de son passé et du présent. Et enfin, pour finir, vendredi 4 février à 14h ou 16h au choix, le cinéma de la Maison pour tous Louis Feuillade projettera Rose d'Aurélie Sada, qui nous raconte l'histoire de Rose, 78 ans, récemment veuve, découvrant une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu'elle peut encore se redéfinir en tant que femme. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et vous laisse avec Manu pour la suite de l'émission.
Alors tout de suite, je vais vous parler d'Un monde de Laura Vandel. Qui évoque l'univers impitoyable de l'école primaire. Et oui, ça peut être traumatisant. Impossible de ne pas être touché, même bouleversé, à la vision d'un monde, reflet anxiogène du vécu commun, souvent refoulé. Qui n'a pas subi dans sa scolarité le harcèlement physique et moral de camarades de classe ? réminiscence d'injustice où l'on se sent dans une situation inextricable, avec l'impossibilité d'en parler aux parents et aux représentants de l'autorité. Et lorsque certains événements sont dévoilés, exposés aux yeux de tous, le ressenti est parfois encore plus douloureux. Laura Vandel ravive ses émotions, négatives souvent, avec beaucoup de justesse et de pudeur, éloignée d'un discours idéaliste sur l'enfance associé à l'innocence. Alors qu'il n'y a rien de moins innocent qu'un enfant. Mais à l'image du titre, il s'agit d'un monde vu et ressenti à travers le point de vue de Nora dans un cadre bien délimité dans le temps et l'espace, l'école, symbole d'une institution oppressive, malgré elle, un lieu où la violence circule entre les principaux acteurs. Alors les adultes, pas toujours compréhensifs, donnent des ordres ou ne comprennent pas ce qui se joue devant eux, ne souhaitant pas toujours intervenir dans des histoires de gosses. Les rapports entre les élèves sont tendus et agressifs, reproduisant la violence sociale ordinaire. Ou du moins, c'est cette impression que ressent Nora, pour qui le milieu scolaire s'apparente à un enfer, un cauchemar sans fin, terrain d'humiliation, d'échanges verbaux sans filtre et de rapports de force où les corps sont malmenés. La caméra reste collée à son personnage, provoquant un étouffement permanent. Alors cela peut créer un rejet ou une fascination immédiate, une angoisse nous ramenant aussi à un vécu traumatisant que l'on ne sait pas toujours exprimer avec des mots, car dérisoire au regard des vrais problèmes d'une société à grande échelle. Chaque lieu est source de panique pour Nora, la cantine et son brouhaha permanent, la cour de récré synonyme de défoulement, la classe qui engendre le stress des apprentissages et la salle de sport.
T'as vu quelque chose ? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu ?
Il n'y a rien, personne.
C'est quoi ça?
C'est un rouge. Mais j'ai marqué du but.
Hein?
Qu'est-ce que vous faites là?
Mais de quoi je m'en mêle?
Super. Regarde bien devant toi.
Je suis sûr que vous êtes capable de faire en sorte que ça se passe bien.
Si vous avez un problème, vous m'en parlez, d'accord?
Alors, en dépit de sa radicalité formelle et narrative, le film ne grossit pas le trait, n'exagère pas des situations en fin de compte très communes. Mais justement, cette banalité du mal-être touche par son universalité. D'autant que Laura Vandel ne filme l'expérience de Nora qu'à travers un espace fermé, bien délimité, l'établissement. Il s'agit là d'une vision parcellaire assumée par un vrai regard de cinéaste. Nous ne savons pas ce qui se passe en dehors des murs de l'école, ce que fait Nora et son frère Abel. Comment se passe leur vie au sein de la famille? Tout au plus, quelques bribes d'informations suggérant que leur père ne travaille pas, qu'il est proche de ses enfants pour pallier à l'absence d'une mère jamais évoquée. L'intelligence d'un monde introduisant une légère distanciation se traduit aussi par le fait de ne pas représenter Nora comme une figure martyre, mais comme le premier témoin affectif des violences physiques subies par son frère, véritable souffre-douleur de ses petits copains. La souffrance ressentie par Nora réside dans son incompréhension du sort réservé à Abel. La méchanceté naturelle de l'enfance s'avère presque un contrepoint assez sain et lucide vis-à-vis de l'éternelle vision édifiante qui sacralise le plus souvent cet univers impitoyable. D'ailleurs, la cruauté du film atteint son comble quand Abel, enfin accepté des autres, dans un revirement assez banal, assez courant, va se comporter de la même manière envers un autre élève devenu à son tour victime des sévices quotidiennes. Alors le film se clôt brutalement par une séquence très forte, pleine d'amour et d'espoir, lorsque Nora serre son frère contre elle. Alors ramassé sur une durée presque idéale de 72 minutes, un monde prend le spectateur par la main dès son ouverture et ne le lâche plus, happé par un récit fragmenté et immersif. Alors une fois n'est pas coutume, le terme immersif n'a jamais paru aussi juste pour décrire ce film assez douloureux et nécessaire. Ce miroir monde défile sous nos yeux à travers le récit intérieur de Nora, magnifiquement interprété par la débutante Maya van der Beek. Oui, le film est belge, ce n'est pas un film français. C'est un film belge qui sort donc sur les écrans le 26 janvier au cinéma Diagonale. Découvert avec les rencontres après minuit, croisement étrange entre Rob Grillet et Jean Rollin, Yann Gonzalez est révélé avec le fascinant Un couteau dans le cœur, faux giallo et belle plongée dans l'univers du porno gay des années 70 avec Vanessa Paradis. N'est-ce pas, Victor ?
Oui, tout à fait. Yann Gonzalez, c'est un réalisateur un petit peu hybride qui s'attaque un petit peu à toutes les formes. Donc, du coup, les deux longs métrages que tu as déjà cités, mais aussi pas mal de clips et puis des courts, notamment Les Îles, qui est sorti en 2017 sous la forme d'un long métrage qui regroupait trois courts signés Caroline Poggi, Jonathan Vinel, Bertrand Mandico et bien sûr Gonzalez, donc dans le film Ultra Rêve. D'ailleurs, les quatre cinéastes ont ensemble signé un manifeste qui est paru dans les cahiers du cinéma, dont on parlera plus tard au cours de l'interview. Pour resituer un petit peu Gonzalez, c'est quelqu'un qui trouve ses références autant chez Fulci, Bava, que chez Jean Genet ou Cocteau, qui effectivement, comme tu le signalais, peut faire jouer une actrice comme Vanessa Paradis et la faire dialoguer avec Christophe Beer au fin fond d'un cinéma porno. Les scènes d'horreur pure peuvent suivre des scènes de gags et tout ça sans empêcher l'émotion de suivre son cours. Dans le bref entretien qui va suivre, le réalisateur nous raconte son enfance bercée par les monstres et les tueurs en série et comment ses étranges compagnons en route... Ah. Dans ce bref entretien qui va suivre, le réalisateur nous raconte son enfance bercée par les monstres et les tueurs en série et comment ses étranges compagnons de route l'ont guidé vers les plateaux de cinéma.
Oh.
Alors, attends.
C'est pas mal comme début. Alors mes premiers rapports au cinéma d'horreur sont je crois que c'est d'abord passé par le récit oral de mes parents qui étaient férus de cinéma fantastique et d'horreur et qui me racontaient les histoires de films cultes comme L'Exorciste, La Maison du Diable, La Malédiction. Et évidemment, ces récits me terrifiaient et je construisais mentalement des images encore plus terrifiante que les 10 films. et j'entendais aussi, quand ils regardaient des films dans la chambre à côté, les sons de ces films-là. Et de tous les films qu'ils regardaient le soir, à partir de 9h du soir, voilà, je m'endormais avec la bande sonore des films qu'ils regardaient à la télévision dans la chambre d'à côté. Donc évidemment, ouais, je construisais des images mentales et à partir de là, je fabriquais, disons, mes propres films dans ma tête, quoi. Et c'est beaucoup plus tard, je dirais que c'est à ces épisodes-là où j'avais droit à ces films seulement à l'oral, je devais avoir déjà peut-être 5-6 ans. Et je pense que c'est à partir de 7-8 ans que j'ai commencé à regarder des films fantastiques. C'est un exemple que je cite souvent parce que je crois que c'est vraiment un des premiers films qui m'a marqué, qui m'a traumatisé. C'était Le Cauchemar de Dracula. Je crois que c'était passé à la dernière séance d'Eddie Mitchell. Je devais avoir pareil 7, 8, 9 ans peut-être. J'en ai fait littéralement des cauchemars tous les soirs. Je trouvais que vraiment Christopher Lee en Dracula était hyper impressionnant. Et après, c'était beaucoup encore de fantasmes sur des affiches, en fait. Des affiches de cinéma, des titres de films, des vignettes, des photogrammes de films que je voyais sur les programmes télé ou dans les programmes de cinéma. Enfin, je construisais tout un réseau d'images mentale, fantasmatique autour de ces films, autour de ces titres. Et je me souviens, pour me rassurer le soir, je faisais comme une espèce d'incantation où je récitais les titres de ces films d'horreur comme pour chasser le mal et l'angoisse et la peur de ces films. Parce qu'à chaque fois, en fait, il y avait à la fois le désir très fort de les voir et la terreur, quoi. J'étais vraiment terrifié à l'idée de les voir. Je me souviens notamment de La Compagnie des Loups de Neil Jordan. Je ne sais pas quand il est sorti, je devais avoir 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 85, donc j'avais 8 ans. Et j'étais à Paris à ce moment-là. On était parti en vacances à Paris pendant quelques jours. Et ma tante m'avait dit, si tu veux, on va... Parce que j'arrêtais pas d'en parler, je voyais les affiches dans tout Paris, sur les colonnes Maurice. Je l'affiche me fascinait, quoi. Et ma tante, qui est en voyage avec nous, m'a dit, mais si tu veux, on va le voir. J'ai dit, non, je ne vais surtout pas aller le voir. J'avais trop peur, en fait. Finalement, le film est assez inoffensif. Je pense que je m'en faisais tout un monde, alors qu'au final, La Compagnie des loups, ça reste un film assez soft, quoi. Mais ouais, aussi toutes les jaquettes des films René Château qui sortaient en VHS, les zombies, les massacres à la tronçonneuse, enfin, tous ces titres qui se vendaient aussi par rapport à une seule image choc, zombie, c'est des zombies avec une hache dans la tête, maniaque avec cette espèce de jean serré qui moulait le sexe du maniaque. Enfin, c'est des images à la fois très sexuelles et très horrifiques qui nourrissaient mon imaginaire de manière très très forte à l'époque.
C'est un de ses amis qui a découvert le corps.
Carl venait de tourner dans un demi-film.
Quel genre de film exactement?
Oh, arrêtez votre charme, fais pas le coup des types, ils sont pas renseignés.
Dans 2 minutes, je veux tous à poil et regarde à vous, plus raide que Giscard. On se soulage avec la main, on est à l'aise entre copains.
Bah, de toute façon, ces films qui ont été des films matriciels pour moi à l'adolescence, bon, j'ai m'équité. Hein. Ils sont toujours là de manière consciente ou non. Alors, parfois, j'y fais référence de manière très, très consciente, très claire, que ce soit dans Les Rencontres d'après minuit ou dans Le Couteau dans le cœur ou dans certains courts-métrages, il y a des hommages très spécifiques, très conscients à certains films. Et après, il y a des choses que je n'ai pas forcément analysées, que je n'analyse pas forcément sur le plateau et que je recrée parce que les films font partie de mon ADN et que je les reproduis inconsciemment, quoi. Donc oui, c'est des films qui n'ont cessé de me hanter, que je revois, que ce soit les Argento, les Bava, les De Palma, tous les classiques qui ont jalonné mon adolescence, je les revois très très souvent, presque chaque année en fait.
On en a parlé tout à l'heure en introduction, Yann Gonzalez a signé avec 3 camarades cinéastes un manifeste intitulé Flamme, publié dans les Cahiers du cinéma en 2018. Avant d'entendre Yann Gonzalez vous parler un petit peu de ce manifeste, je vais me permettre de vous le lire. Nous poursuivons un cinéma qui traverse les genres, les émotions, le temps, qui traverse la rétine et la chair, qui traverse les désirs, les désordres, qui traverse lorsque tout est rouge, qui traverse les idées reçues, qui traverse l'écran, qui traverse les étoiles, qui traverse les actrices, les acteurs, les frontières et les sexes, qui traverse sans se retourner, qui traverse la peur et les plaies, qui traverse l'esprit, qui traverse les lumières et les flammes. Nous poursuivons un cinéma enflammé, un cinéma pour les rêveurs transpirants, les monstres qui pleurent et les enfants qui brûlent. Un cinéma qui jouit et se consume sans compter, et nous invitons tous les cœurs enflammés à venir souffler sur les braises. Ces mots actent notre volonté commune de faire des films, de les rêver, de les penser, de les désirer et de les révéler. Ce n'est pas un gnome, juste une flamme dans la nuit, notre état du moment. On raconte que certaines nuits froides d'hiver, nos films se réunissent dans la forêt, ensemble ils allument un feu et dansent jusqu'à l'aube pour faire brûler nos cœurs.
Alors, Manifeste Flamme, c'est né, je pense, à la fois d'une forme de rage de la part de Caroline Poggi, Jonathan Vinel et Bertrand Mandico, et donc moi-même, face au torrent de films naturalistes qui envahissent les écrans chaque année et qui laissent peu de place à l'imaginaire, en fait. Et on a écrit ce manifeste pour... promouvoir pour exacerber notre passion, notre désir pour des films fous, pour des films lyriques, pour des films qui sortent des sentiers battus, pour des films qui cultivent en fait des mondes autres et imaginaires hors des films à caractère social ou naturaliste, voilà, qui laissent peu d'alternatives en fait, quoi, aujourd'hui, au cinéaste français notamment. Donc voilà, c'est un manifeste à la fois, je dirais, rageur et amoureux.
Un film de Yann Gonzalez, c'est toujours une expérience à nul autre pareil, et comme il nous tarde d'en découvrir plus, on a tenté d'en savoir un petit peu plus sur la suite de la carrière du cinéaste.
Et j'ai tourné un clip en début d'année avec Elena Patricio, qui nous accueille ce week-end au Château H. Un clip érotique avec 25 filles qui se séduisent, qui se draguent dans une ville un peu labyrinthique et imaginaire. Et là, je viens de tourner trois gros clips en Angleterre pour le chanteur du groupe The XX, Oliver Sim. Trois clips qui vont former un court-métrage d'une vingtaine de minutes qui s'appelle Hideous, avec des monstres, des meurtres, du fantastique, de l'amour. Voilà, tout ce genre de thématiques et de motifs qui me passionnent. Et je suis en fin d'écriture de mon prochain long métrage, que j'espère terminer cette année.
Eh bien, en espérant voir très très bientôt le prochain long métrage de Yann Gonzalez et ne pas attendre 5-6 ans. Eh bien, en attendant, je laisse la parole à Yann pour le film Les Magnétiques.
Audioblique, Les Magnétiques. Dans le premier long métrage sorti en 2021 du réalisateur Vincent Maël Cardona, ce sont d'une part les attractions et les fluides entre les trois personnages principaux du film. Le héros, Philippe, taciturne, taiseux et hypersensible, admiratif du charisme social de son aîné, Jérôme, auquel il restera très fortement lié malgré les excès du grand frère, ses débordements de violence et sa rancœur existentielle. Et enfin, Marianne, la femme de Jérôme, dont Philippe tombe amoureux dès la première vision. Le film gravite autour de ces trois personnages, dans le contexte des jours qui suivent l'élection présidentielle de François Mitterrand en mai 1981. Pas de carte postale d'époque, une époque qu'on oublie d'ailleurs assez vite dans le film. S'il n'était l'autre signification des magnétiques, très ancrée dans l'ère de la bande magnétique et de la cultissime cassette audio. Les deux frères et leur bande ont créé une radio, Radio Warsaw, antenne pirate avant la libéralisation des ondes en 1981. La référence au titre Warsaw de Joy Division n'est pas anecdotique. C'est un hommage affermi par une belle scène de fusion collective sur une chanson du groupe à l'annonce du décès de son leader iconique, Ian Curtis, en mai 1980. C'est l'une des rares scènes du film qui se passe avant 1981. Philippe est aux manettes, Revox, platine, filtre et autres potards dans cette radio, incroyablement doué pour le bidouillage des sons, beaucoup moins pour les mots qu'il n'arrive pas à exprimer envers Marianne. Les sentiments entre eux deux passeront par les sons, mais aussi par les mots des autres, chantés par des échanges de bandes magnétiques, des échanges de cassettes, par les ondes. Une scène, Philippe, en service militaire à Berlin, après avoir échoué dans sa tentative d'être réformé P4 pour raison psy, je précise pour les plus jeunes peut-être de nos auditrices et auditeurs, P4 c'est la réforme, être réformé psy pour le service militaire à l'époque, Philippe est invité à une émission musicale dans un studio de radio. L'animateur lui propose alors de dire quelques mots sur le titre qu'il a choisi et qu'il veut dédier à Marianne, sur la raison de son choix et sur sa destinataire. Philippe en est incapable, incapable du moindre mot en direct, mais dans une rage créatrice, il va s'emparer de tous les micros suspendus du studio, décrocher une enceinte amplifiée, pour l'installer sous les oscillations aléatoires de ses micros. C'est presque ce qu'on pourrait faire dans le studio à Divergence, on a tout ce qu'il faut, créant de multiples feedbacks et interférences pendant lesquels sa virtuosité de l'analogique va irradier platines et bandes magnétiques convoquées pour un fascinant maelstrom de décibels, prélude à la diffusion libératrice de la chanson pour sa belle. Alors si cette scène n'est pas exempte d'une certaine facilité, elle évitera cependant le piège de faire sombrer le film dans une énième et lénifiante success story. Et son mérite principal est peut-être de nous rappeler ce qu'un certain Steve Reich avait déjà réalisé en 1968, avec seulement quelques micros suspendus et une enceinte. C'était alors Pendulum Music, installation sonique, minimaliste, un brin expérimental, entendu au début de cette chronique. Pour finir, je vous invite à poursuivre l'écoute de ces micro-pendules du compositeur américain, sirène lancinante et stridente, aux parcours improbables, rejointe pour clore l'audioblic par la musique de Joy Division, dont le souvenir est si vivace lors de la vision du film « Les Magnétiques » de Vincent Maël Cardona.
L'émission touche à sa fin, on va juste terminer par un conseil. Alors Victor, qu'as-tu vu ou lu de beau ?
Eh ben moi, mon coup de cœur, c'est du coup le bouquin Camp, sorti chez Marest Éditeur. C'est le volume 1/3 écrit par Pascal Français. C'est un bouquin formidable qui donc utilise le concept de camp, c'est-à-dire un terme propre à la culture gay qui désigne dans l'art tout ce qui peut révéler de la posture, de l'artifice, mais affiché, exprimé en tant que tel. Et avec ce concept, Français arrive à nous parler d'un même film comme un potentiel navet incohérent ou d'une œuvre contestataire dont la mise en scène est une déconstruction des codes cinématographiques. Le livre est un régal, donc campe jusque dans son écriture, puisque son style universitaire peut soudain s'arrêter net pour laisser place à une phrase clairement humoristique ou un ton carrément plus personnel. Vivement les deux prochains volumes.
Et toi, Yann ?
Qu'ai-je vu ? Je dirais peut-être, j'ai fini de regarder la série des années 70 de Fassbinder, 8 heures et ne font pas un jour, série familiale et prolétaire qui se termine sur une espèce de, comment dire, de célébration non sans scepticisme de l'autogestion.
Et on peut le voir où ?
Alors, j'ai trouvé un exemplaire à la médiathèque de Montpellier. Voilà,
et c'est sorti, je crois, chez Carlotta.
C'est Carlotta, voilà, oui, c'est qui a sorti ça.
Moi, je vais juste vous donner, le conseil que je vais donner, c'est donc Le Vampire et le Sang des Vierges, édité par Artus, une tentative réussie de cinéma gothique allemand, qui n'a rien à envier à ses modèles italiens et anglais, grâce notamment à l'extraordinaire beauté des décors, des images, Voilà, c'est un film qui pourrait être qui prend un peu des allures de Train fantôme, hein, une histoire de un trajet comme ça, un trajet gothique. Voilà, une grande réussite réalisée par Harald Rein, qui était l'un des cinéastes allemands les plus populaires des années 40 à fin 70, hein, et il a réalisé beaucoup de ce qu'on appelait des crimis, des films policiers inspirés d'Edgar Wallace et puis aussi des westerns allemands. Voilà, et c'est édité chez Artus et c'est actuellement en vente. Voilà, l'émission se termine, donc je voudrais toute l'équipe se joindre à moi pour vous souhaiter une bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Donc je voudrais remercier Anna et Adeline à la technique, le cinéma Utopia, Diagonale, Divergence, Artus Film bien sûr, Yann Gonzalez, et puis Justine, Yann et Victor.
Salut, à bientôt.
À bientôt.
Merci, bye bye. À la semaine prochaine.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.